Vous écoutez
RMC.
Il est 1h17 du matin en France. Il est 19h17 dans le studio américain de l'After Foot. Allez sur la chaîne YouTube de l'After, vous verrez la vue extraordinaire qu'on a de notre studio avec tout Manhattan derrière nous, le soleil qui commence à se coucher, le Chrysler Building, l'Empire State Building, le Maxim Shadow Building,
également le Flatiron
à gauche.
Le Riolo Building à ma droite.
Daniel, c'est une maison. Daniel, peut-être. Il est plus maison, Daniel. Alors.
Moi, je vais pas très haut, tu vois.
Il y a des très belles maisons, sache-le.
Il y a le mall Gilbert Bribois, pardon.
Ah ouais, bon. Le mall,
Il y a la caserne militaire Gautreau, là.
Le Marine. Florent Gautreau.
Je continue mon entraînement sous les ordres de Max Chano.
Mais c'est vrai que les biceps gonflent. Hein.
Ouais, c'est la protéine.
Ah, d'accord,
ouais,
c'est les omelettes.
C'est le poulet aux hormones américains.
Je le savais pas, mais c'est compris dans ouais. Les plats.
Écoutez Jean-Michel Larqué qui donne son avis sur le Brésil et ensuite on aura le nôtre suite au match d'hier avec une précision concernant Rafinha en préambule. Rafinha est d'ores et déjà forfait pour le prochain match face à l'Écosse, mais le Brésil pour l'instant ne voit pas plus loin. Donc on l'espère pourquoi pas le récupérer ensuite. Jean-Michel Larqué.
Oui, avec une équipe du Brésil qui ressemble absolument pas au Brésil que j'ai aimé, que j'attendais quand même si les stars se font attendre. C'est un match moyen à l'image du premier match. C'est un candidat de moins pour la finale, me semble-t-il déjà. Et je trouve que c'est presque l'antithèse du football brésilien. Cette équipe du Brésil est quand même une des pires équipes du Brésil que j'ai jamais vues. Cette équipe-là me déçoit énormément.
Bon, une des pires équipes du Brésil qu'il ait jamais vues. Jean-Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ?
Il faudrait faire le bilan de celle de 90, c'est pas terrible. Mais globalement, je vois ce qu'il veut dire. Inutile de se mettre à analyser chaque compétition. Moi non plus. Moi, je veux dire moi non plus. Plutôt, je suis sur sa ligne. J'aime pas cette équipe de Brésil. J'aime pas beaucoup les joueurs qui la composent. Il y a peu de talent.
Il y a eu 2014 par exemple où ils ont pris la branlée chez eux contre les Allemands.
Mais l'équipe avait plus d'allure. Ouais, l'équipe avait plus d'allure. Ouais, elle était emmenée à l'époque par un Neymar qui était très bon. Ok, elle a pris une raclée et d'ailleurs la raclée elle la prend en demi-finale quand même. C'est pas rien déjà demi-finale en proposant plutôt à chaque fois du bon football. Bon, elle perd. Le score avait semblé complètement hallucinant et puis c'est contre le futur vainqueur qui était vraiment très fort à l'époque, l'Allemagne. Mais là, où est le talent? C'est une équipe emmenée et dont le meilleur joueur, pour moi, un type qui, oui, objectivement, je ne vais pas le contester, mais c'est un joueur qui a très peu de tête, qui a eu QI football limité. Tout le monde le sait que j'apprécie très peu Vinicius.
Qui a réussi son entrée en lice de la compétition.
C'est pas un joueur qui m'emballe beaucoup.
Il est agaçant, c'est vrai.
Voilà, c'est un type, oui, on sait qu'il sait faire des différences. Enfin, je ne suis pas aveugle, je sais la qualité qu'a ce joueur. Mais le milieu de terrain est faible, derrière ça m'emballe pas, les latéraux c'est pas ceux qu'on... De toute façon, j'ai jamais mis le Brésil dans mes favoris de cette Coupe du Monde. Je trouve que ce que j'ai vu de cette équipe, c'est même en dessous de ce que je pensais. Donc je les vois pas aller loin. J'ai pas regardé, moi je fais pas les trucs de avec qui tu croises et tout ça, j'aime pas trop ces projections parce que souvent c'est démenti et puis je trouve que ça sert pas à grand chose. Donc j'ai pas vu avec qui ils pouvaient croiser, de toute façon clairement ils vont sortir du groupe, ça c'est sûr. Mais derrière, voilà, c'est une équipe qui m'emballe pas, il y a peu de talent, j'aime pas, je les vois pas faire grand chose. Et Ancelotti surtout n'a rien réussi à faire de cette équipe, mais aurait-il pu? Avec la qualité du groupe, je ne sais même pas en fait.
Mais en fait, sur les postes clés et historiques du Brésil, je vais prendre latéraux 10-9. Tu vois. Latéraux, historiquement, ça a toujours été très fort. Là, c'est cata par rapport au niveau des Cafu, des Branco, des Roberto Carlos et autres Marcelo. Le 10, on sait, les Zico, les faiseurs de jeu qu'il y a eu. Là, tu as un milieu à 3, Casemiro, Guimarães, Paqueta. On connaît tous ces joueurs, hein, certains, la plupart qu'on a vu, hein, enfin deux d'entre eux en Ligue 1. Bon, ok, c'est correct, mais on n'est pas du niveau des 10 qu'on a pu avoir à une époque. Et puis le 9, on a eu Romario, on a eu Ronaldo, le vrai, on va dire, enfin le 9. Mmh. Et là, on a Matheus Cunha qui remplace Igor Silva, c'est ça ?
Thiago.
Igor Thiago, pardon. Bon, honnêtement, tu vois, rien que sur ces trois poste clé et historiquement fort au Brésil.
Moment, hein, parce que il y a Richarlison qui est pareil, qui est vraiment mauvais. Enfin,
moi je suis convaincu que c'est cyclique, messieurs. C'est cyclique.
Ah, et, là, le cycle dure quand même. Au
c'est un long cycle. Il y a des cycles qui durent un peu plus longtemps que d'autres. Mais je suis d'accord avec toi, ça manque un petit peu d'icône. Et j'étais pas pour, en tout cas, sélectionner Neymar, mais au moins ça permet aux observateurs, en tout cas aux Brésiliens, de pouvoir peut-être se raccrocher à quelque chose. Alors il y a Vinicius qui, pour moi, réussit malgré tout son entrée dans la compétition. Il montre même que c'est le leader d'attaque, même le leader de cette équipe. C'était pas forcément le cas, en tout cas l'année dernière, par rapport à son irrégularité. Mais je suis d'accord avec vous. C'est vrai que quand tu regardes ce Brésil, après t'as pas besoin d'aller bien loin. Tu regardes leur campagne qualificative. Il me semble qu'ils finissent cinquième dans une
dans la zone sud-américaine. Où normalement ils devraient être premier ou deuxième.
Exactement. C'est loin d'être incroyable. Et puis tu regardes aussi les performances qu'ils ont fait. Alors c'était un petit peu mieux contre Haïti parce qu'en effet Haïti a souhaité jouer, donc ça a laissé un petit peu d'espace. Moi je pense que ça va être intéressant de les voir contre les Écossais. D'autant que ça va être un match en jeu parce que les Brésiliens doivent absolument gagner pour pouvoir finir premier du groupe.
Et les Écossais, je vois pas trop comment ils vont les embêter.
Ouais, mais ils vont venir avec un bloc bas. Ils vont venir avec un bloc bas ça va être différent. Et tu l'as vu contre le Maroc. Dès que le Maroc a commencé un peu à serrer les lignes, c'était très très compliqué pour eux. Après, ils ont mis un milieu qui est vieillissant, Casemiro qui avance plus. Je parle toujours des plus de 30 ans, mais bon, je pense que là, j'ai encore plus.
C'est vrai que
Max
a une grande théorie là-dessus, hein, les gars.
Mais on l'a encore vu. On l'a vu contre le Maroc.
Vous la connaissez pas encore, Daniel et Flo?
Non,
vas-y, développe.
Bah, j'ai dit que vous étiez tous vieux, voilà, c'est tout.
Non, Max, la théorie de Max, c'est avec le foot qu'on voit maintenant, en fait, à 30 ans, c'est fini.
Mais tu le vois, avoir 30 ans, 31, 32, évidemment, tu vas avoir certains joueurs qui vont arriver
En plus, au-delà même de la forme physique, c'est juste que l'implication.
Mais il y a tout. Et quand tu as gagné aussi beaucoup d'argent, quand tu as gagné beaucoup d'argent, c'est ça l'implication.
On a le temps, mais si tu veux développer un peu, c'est-à-dire que toi, tu estimes que c'est pas tant physique, en fait.
Il y a un peu de tout. C'est pour
ça. À 30 ans, il y a une sorte de bascule, en fait.
30 ans, 31 ans, 32 ans, en fait, la réalité, c'est que tu as de plus en plus de jeunes joueurs qui arrivent très tôt.
Et qui démarrent plus tôt, en fait.
Exactement. Et on va prendre le cas avec le Maroc. Quand tu vois El Naoui et Boadi, comment ils ont mangé les Brésiliens. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus forts physiquement, parce qu'ils ont plus d'envie, parce qu'ils ont gagné moins d'argent, donc ils veulent aller chercher le prochain contrat. Moi, je te dis la vérité, et tu peux demander à n'importe quel footballeur qui joue dans, j'allais dire au très haut niveau, mais Daniel va me regarder, il va encore un peu rire, mais en tout cas, qui a atteint le statut professionnel, dès que tu commences à gagner ton premier contrat, ton premier gros contrat, t'as tendance à faire un peu moins d'efforts, et donc c'est sûrement le cas aussi de beaucoup de ces joueurs. Mais ouais, moi, je suis convaincu que cette équipe brésilienne, elle est vieillissante. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, avec s'il n'y a pas un renouvellement, en tout cas, de cet effectif, on risque de voir un Brésil encore.
Mais je sais pas où sont les jeunes talents brésiliens, je sais pas où sont les bons joueurs.
Mais tu sais aussi pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, le trading dans le football a tellement pris une place importante que la manière dont les joueurs brésiliens sont formés pour tout de suite être vendus en Europe, ça stéréotype joueur brésilien.
Non, Max, je comprends ce que tu dis, mais méfions-nous quand même des idées reçues, parce que Romario est très jeune quand il arrive aux Pays-Bas, Ronaldo est très jeune également quand il arrive aux Pays-Bas. Ça fait très longtemps qu'il y a des très jeunes joueurs qui partent du Brésil.
Ça arrive, 1, 2 ou 3, je suis d'accord avec toi, mais là aujourd'hui c'est cette équipe brésilienne, alors c'est un peu paradoxal parce que t'en as maintenant qui sont revenus d'Europe pour jouer au Brésil, mais les 3/4 du business model aujourd'hui d'un club brésilien, c'est de former ton joueur, de le faire sortir très jeune pour derrière l'envoyer en Europe où sa formation n'est pas encore terminée.
Ce que le disait Demetrius Ferreira l'autre jour, il dit c'est n'importe quoi
mais Hendrick, entre le temps où est-ce qu'il a fait ses premiers matchs du côté du Brésil et aujourd'hui où est-ce qu'il c'est plus le même joueur, parce qu'entre temps, il a fini sa formation en Europe, donc c'est plus du tout la même. Il a plus la même ADN football, et en fait, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on n'arrive plus à retrouver des joueurs comme on avait vu à l'époque, Ronaldinho, Ronaldo, Robinho et compagnie, parce qu'aujourd'hui, voilà, les mecs sont tellement stéréotypés dans un football qui est complètement qui est plus drôle à voir. On va être très honnête. Enfin, c'est aujourd'hui l'industrie footballistique. Quand tu regardes un match, pour avoir des joueurs qui te fassent lever de ton siège, on a plus beaucoup, et c'est exactement le cas avec le Brésil. Et aujourd'hui, si tu leur enlèves justement un petit peu de ces étoiles, de ces trucs, t'es mort et tu te retrouves avec un Brésil où tu t'emmerdes à aller regarder jouer.
Il y en a un qui va revenir dans l'actu plus que jamais. C'est qu'Ancelotti a dit que Neymar allait jouer contre l'Écosse. Alors il a pas dit s'il est titulaire ou quoi.
Waouh.
Mais on va voir Neymar. Ce qui est déjà un événement en soi.
Ben surtout dans cette
un événement qui peut augmenter la dramaturgie autour de cette équipe.
Ouais, tout à fait,
parce que t'as été déçu. Alors après, peut-être qu'au Brésil, j'avoue que pour le premier match, j'avais regardé ce qui avait été dit. J'ai pas vu après Haïti, tant ça m'a semblé un peu inutile. J'ai pas vu ce qui a été dit au Brésil. Si au Brésil, on a dit que le match contre Haïti, c'était ça y est, on est lancé, on a gagné 3-0, c'est fantastique, et Neymar va venir pour la cerise sur le gâteau. Bon, s'ils ont fait cette analyse-là...
Non, ça n'a pas été perçu comme ça, mais...
Voilà. Non, ce qui est terrible par rapport au réservoir et à la situation actuelle, c'est que le milieu dont je parle, qui est limité, qui est un peu... Je parle pour une équipe de Coupe du Monde, hein, on connaît ces joueurs qui sont de bons joueurs, ok. Si ce milieu-là, on n'attend que l'arrivée d'un joueur qui est certes ultra talenteux, mais qui n'est plus vraiment un grand footballeur,
et quasi
pour le sublimer, c'est là aussi où tu vois le problème du réservoir brésilien.
L'Écosse, c'est pas des artistes, mais en termes d'impact, ils y vont.
Ah oui, clairement.
En termes d'impact, ils vont y aller.
C'est pas un bon match. C'est pas un bon match d'emprise. Hein.
Ils sont faibles.
Moi, Neymar, s'il avait fallu le lancer contre Haïti, tu peux rigoler. Contre l'Écosse, tu vas te prendre les milieux de terrain.
Contre le Qatar, t'aurais pas dit ça. Puis en fait, finalement, c'était pas le bon match.
Après l'Écosse, ça va être différent. Ils vont être beaucoup plus compacts.
Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à jouer? Salves en Écosse.
Ouais. Mais en tout cas. Je connais pas la ref.
C'est le Colombien.
C'est le fameux match PSG Strasbourg où Neymar s'est blessé tout seul. Gonçalves s'est pris la marée dans la tronche alors que le pauvre était pour rien.
Gilbert, de celui qui a blessé Neymar, et ça c'est terrible, c'était à la Coupe du Monde 2014.
Le genou dans le dos.
Ah bah là c'était autrement plus violent que
Là c'était violent.
C'est vrai que je suis pas convaincu que faire rentrer Neymar dans ce match-là soit la meilleure solution. Et puis même d'ailleurs la question de l'avant-centre aussi. Est-ce que tu mets Igor Thiago? Est-ce que tu mets Cunha?
Le Brésil en entier demande Henrique. Parce qu'en fait Henrique il a une cote au Brésil de feu. Parce que tous les gamins s'identifient à Henrique, c'est le petit jeune. Nous sommes tous Henrique.
Mais tout ce qu'on voit là,
c'est la pression de folie pour Henrique.
Tout ce qu'on voit et tout ce que tu dis, on voit bien que c'est quand même pas très rationnel quoi.
Non,
on est dans une équipe qui a dans son histoire l'ambition de jouer les Coupes du Monde pour aller au bout. Et donc ça doit se reposer sur un type qui a quitté le haut de l'affiche internationale depuis longtemps et qui est tout le temps blessé, et un autre, un gamin qui a jamais rien fait nulle part. Tu vois, c'est un moment.
C'est cyclique.
C'est pas rationnel ce que font les Brésiliens. Ils ont une approche du foot. C'est incompréhensible ce qu'ils racontent, les gars.
On en revient à ce problème, je te dis, sur les postes clés. Pour le 9, le premier 9, c'est pas bon. Le deuxième, il met des buts. Mais tu veux quand même un troisième dont on sait les limites. On connaît les limites d'Henrik. C'est un joueur qui est OK. Là, on est en train de comparer, pour revenir au propos de Jean-Michel Larquet, de savoir si c'est une des pires équipes de l'histoire de la Coupe du Monde pour le Brésil. Oui, parce que je te dis, sur ces postes clés, on est en train de se dire, le premier neuf, non, faut le sortir. Le deuxième, c'est bien. Ouais, mais il y a mieux parce que le Brésil réclame Henrique. Et Henrique, nous, on sait que c'est moyen. Donc, tu dis, ok, ils sont vraiment mal, très mal en termes de neuf. Le 10, tu dis, ils en ont pas. Regarde, ils ont un milieu qui est un peu poussif. Ah, mais il y a Neymar. Ouais, mais Neymar, les gars, s'il se prend un coup de genou, au bout de 10 minutes,
Après un sprint, c'est foutu.
Il a pas 60 minutes dans les jambes. Ok. Et puis, les latéraux. Alors, on a changé les deux premiers latéraux après le premier match parce que c'était vraiment bidon. On n'est pas certain non plus d'avoir les latéraux du siècle. Ok, bon, c'est très bien. À part Gabriel d'Arsenal Marquinhos, et Marquis en corner.
Marquinhos.
Et encore, je sais pas, il commence à tirer un peu la langue, mais bon.
Il s'agit de courir,
au moins, ça ressemble à quelque chose.